D'accord,
Avec
merci. Alors, je vais peut-être vous
les
poser la dernière question. Vous prenez au final le contre-pied de nombreuses analyses en concluant que le travail a plus que jamais un statut d'institution. Pouvez-vous reprendre les principaux signes de ce que vous appelez la nouvelle rationalisation institutionnelle du travail?
D'accord. Alors, constat de base, c'est que le travail n'est pas une activité qui est devenue marginale comme on le pensait ou comme on souhaitait dans les années 90, mais que dans l'échelle des valeurs des Français, le travail occupe une place extrêmement importante. Hein. Alors, j'aime pas trop les enquêtes de valeur parce que parfois elles sont un peu friables sur le plan méthodologique, mais en tout cas, ça rentre dans le détail. Ce qui apparaît très clairement dans les enquêtes de valeur, c'est que le travail trône haut hein, dans l'échelle axiologique, juste derrière la famille. Donc, premier constat basique, c'est que le travail, c'est pas fini et c'est quelque chose auquel sont attachés beaucoup de Français et plus généralement beaucoup d'Européens. Bien. Alors maintenant, dire ça, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant de dire que la fin du travail, c'est pas une réalité. Et c'était vraiment un des enjeux de cet ouvrage-là que de déconstruire précisément la notion de travail pour pouvoir aller davantage dans le détail des reconfigurations contemporaines. Alors pour ce faire, j'ai repris effectivement la notion d'institution dans une tradition durkheimienne en découpant en quatre processus qui donne du sens à ce que travailler veut dire. Alors, le premier processus que j'avais évoqué au début de notre entretien, c'est le processus dit de division. C'est-à-dire que le travail, c'est d'abord une catégorie qui a été inventée historiquement. Hein. La partition travail hors travail, ce n'est pas une partition qui existait de tout temps. Elle s'est imposée et consolidée fortement, notamment avec la révolution industrielle, et avec elle ont été inventées les catégories de chômage, d'emploi, etc. Aujourd'hui, toutes ces catégories posent question. La notion de chômage est extrêmement questionnée par tous les spécialistes du marché du travail. On le sait bien, hein, parce que selon les indicateurs que l'on prend, BIT, DEFM, anciens indicateurs de l'ANPE, etc., on n'obtient pas du tout les mêmes mesures. Et donc s'impose aujourd'hui la nécessité d'inventer de nouvelles catégories pour dire ce que travailler veut dire. Et donc, ça se traduit dans le débat social contemporain par le fait que, eh bien, y a des périodes de la vie des salariés qui ne sont pas forcément des périodes où les gens sont actifs dans l'entreprise, mais qui pourraient être considérées malgré tout comme des périodes de travail parce qu'ils sont en situation de formation et ils ont emmené avec eux des droits de formation qui leur étaient auparavant reconnus uniquement dans l'entreprise. Je fais référence aux récents débats, aux récentes négociations sur la flexisécurité sur le marché du travail. Faut-il conserver la catégorie chômage? Rien n'est moins sûr. Hein, ça fait partie des discussions habituelles. J'évoquais lors de notre conversation les conflits sur les catégories de cadre. La loi Aubry a réinventé complètement ce qu'est la notion de cadre. Donc, en deux mots, ce que je souhaite pointer ici, c'est que on est dans une période où on est en train de réinventer les catégories anciennes qui nous servaient à dire ce qu'était le travail, l'emploi et le chômage. Et je voudrais juste finir, donner une illustration à ce sujet-là, à partir d'un cas qui m'a toujours frappé, c'est le cas de la politique publique qui était donc la politique publique, notamment à destination des jeunes. En France, on a inventé toute une série de dispositifs qui ont fait exploser les catégories justement traditionnelles. Je pense par exemple, vous savez, aux stages d'insertion à la vie professionnelle, qui ont pris. Il y a eu toute une série après d'autres formes, contrats de qualification. Il y a les CIVIS tout récemment, etc. Et ce qui est apparu, c'est que avec ces nouveaux dispositifs, ont été remis fondamentalement en question les grandes catégorisations sociales habituelles, puisque à travers ces dispositifs, on mettait les gens à la fois en situation de contrat de travail et de formation. Donc on inventait des situations où la partition travail hors travail ne tenait plus la route. Et donc on a inventé hein, d'autres façons de catégoriser l'activité qu'on appelle travail. Hein. Et donc je crois que c'est ça qui se joue notamment en partie aujourd'hui. Alors il y a un deuxième registre qui reconfigure le travail comme institution, c'est ce que j'ai appelé l'individuation. Et là, je ferai pour l'essentiel référence au fait qu'il y a une forme d'individualisation de plus en plus forte de la relation de travail, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la logique compétence me semble le signe peut-être le plus évident des tendances récentes, c'est-à-dire que on impose, on met en scène l'individu comme propre auteur de sa carrière professionnelle. C'est ça le mouvement de fond des transformations de ce point de vue-là, avec de sa carrière professionnelle et j'ajouterai de l'organisation de son travail proprement dit. C'est-à-dire que l'individu se retrouve seul face aux tâches qui lui sont imposées et face au destin professionnel qui est le sien. Alors avec la face positive de cette affaire-là, c'est qu'on peut y gagner en autonomie, en singularité, mais avec la face sombre que j'ai évoquée, c'est que il peut y avoir toute une série de contradictions, d'absence de ressources qui vous sont dévolues pour faire ça, et ça c'est dramatique et ça se traduit par tous les symptômes que l'on connaît en termes de stress ou en termes de fatigue, en termes de dépression, etc. La troisième dimension qui m'intéresse pour repenser ce que j'ai appelé en fait la nouvelle rationalisation institutionnelle du travail, c'est les formes d'intégration dans et par le travail. Très clairement, le fait social majeur qu'on n'a pas trop évoqué dans notre entretien, mais que je peux évoquer ici, c'est quand même tout ce qui est montée du chômage de masse et précarisation. Et donc, est questionnée la capacité du travail aujourd'hui à intégrer, à continuer à intégrer les individus dans et par le travail. Il y a eu, j'ai ouvert l'ouvrage par les débats sur la fin du travail, cet espoir de certains que, en diminuant la part du travail dans la vie des gens, ceux-ci allaient s'investir dans d'autres formes qui allaient les intégrer dans la vie sociale, qui serait la vie associative, qui serait le militantisme politique, etc. Ce que l'on sait quand même aujourd'hui, et ça c'est clairement étayé sur le plan empirique, c'est que l'absence de travail est cruellement ressentie par les individus, surtout lorsqu'elle est forcée, et ça se traduit avant tout fondamentalement par un repli sur soi ou un repli au mieux sur la famille. Donc le travail demeure un levier fort en faveur de l'intégration sociale. Donc c'est ce que j'ai voulu réaffirmer, et cette façon de s'intégrer, bien sûr, elle bouge, parce que l'intégration dans les collectifs, la façon de construire son identité, etc., va de pair avec une reconfiguration d'un système de protection sociale qui était obligé d'inventer de nouveaux dispositifs pour maintenir les individus dans la vie sociale coûte que coûte. Le RMI a été peut-être une des grandes innovations en la matière, mais il y en a eu toute une série depuis. Et puis, dernière chose qui m'importe, c'est la production des règles, la régulation. Il n'est pas d'institution sans règles. Le travail, et je reprends la citation de Jean-Daniel Reynaud que j'avais évoqué tout à l'heure, est par définition une activité réglée. Et la grande transformation aujourd'hui que moi je vois aujourd'hui, qui est concomitante à celle que je viens d'évoquer, c'est la montée en puissance de l'entreprise comme espace pertinent de négociation des règles du travail. On a oublié le mouvement de refondation qui a été lancé il y a quelques années par le MEDEF, mais c'était bien l'enjeu, c'est de dire l'entreprise doit être le lieu où on va négocier le temps de travail des gens, le salaire des gens, etc., pour laisser peut-être moins de place à d'autres espaces comme la négociation de branche, voire la négociation interprofessionnelle. Alors bien sûr, le diagnostic est un peu plus compliqué parce qu'il y a des articulations, mais du point de vue des rationalisations institutionnelles, ce qui est nouveau, c'est vraiment la volonté des acteurs de l'entreprise de s'imposer comme acteurs à part entière dans la façon de produire des règles, des normes qui vont permettre de gérer au plus fin le travail et l'emploi au niveau de l'atelier, au niveau du bureau et au niveau de l'entreprise. Voilà en deux mots comment je vois les choses. Ce qui fait qu'au total, le travail, bien sûr, il n'y a pas d'éclipse du travail, il n'y a pas de déclin du travail, mais il y a reconfiguration du travail en tant qu'institution, et c'est la thèse centrale que j'ai voulu défendre dans cet ouvrage.
Très bien, je vous remercie de vous être prêté à l'exercice aussi longuement.
C'était peut-être un peu long, non ?
Non, c'était très bien, c'était détaillé, c'est très bien. Donc à une prochaine fois.
Oui, okay.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.